Il était une fois. C'est vrai qu'il était une fois, c'est la formule qui convient véritablement lorsqu'on veut évoquer la vie de François d'Assise, quand on veut évoquer son œuvre. Quand je parle de la vie, c'est véritablement une vie de héros. Ça ressemble à un conte, c'est l'histoire de son ordre, et ça c'est plutôt une épopée. Alors tout va commencer un matin de printemps, vous êtes en 1206. François avait quelque chose comme 25 ans. Et il va entendre lire l'évangile, il va découvrir que le Christ est quelque chose d'important et finalement en entendant cette lecture, il devient éperdument amoureux. Voilà un mot qui convient bien pour Saint François, il a tout compris. Quand nous-mêmes on a saisi cela, eh bien, on ne s'étonne plus que le même François, à partir de là, va être tenté de mettre le monde entier en état de, comment est-ce que je dirais, en état de louange, ou plutôt en état de fraternité, voilà. Et qu'il ait pratiquement, de son vivant, totalement réussi cette entreprise incroyable. En fait, je ne voudrais pas ici ressusciter dans leur saveur, comme ça, dans leur piquant, toutes les anecdotes de cette vie. Vous connaissez sûrement les fioretti, ces choses fleuries qui correspondent à Saint François. Mais quand on parle par exemple du sermon aux oiseaux, ou alors de la crèche de Greccio, du loup, tiens, le loup de Gubbio, et la stigmatisation par exemple, eh bien, tout cela on le connaît, c'est vrai, c'est un peu dans toutes les mémoires. Mais on va plutôt essayer de fixer les étapes de son itinéraire et commencer comme ça, comme point de départ. On prendrait la boutique d'un simple drapier. Et puis, qui par hasard, tout à coup, rencontre le Christ et qui débouche sur la fondation d'une fraternité qui va devenir internationale, qui aura une véritable vocation évangélique. Ce serait l'histoire d'un esprit plutôt que l'histoire d'une institution. Alors, essayons de reprendre un peu l'époque. Le XIIIe siècle, c'est d'abord le siècle de l'or, le siècle de la richesse. C'est vrai qu'on assiste dans tout l'Occident au premier grand essor de ce qu'on appelle aujourd'hui les affaires. Et le troc va disparaître petit à petit, le commerce est maintenant roi, je veux dire qu'on commence à utiliser la monnaie, ça devient quotidien, c'est même universel, et il y aura même des sociétés qui vont se fonder avec des actions, vous voyez qu'on a quelque chose de très moderne, on voit tout cela qui c'est comme une sorte d'apparition dans l'ensemble historique de l'époque, et tout devient objet de trafic. Et il y a une sorte de montée de cette idée de l'argent, ça devient presque une idole comme ça. Et face à cette montée, eh bien, on attendait quelqu'un, on attendait une voix qui commencerait à proclamer une nouvelle nécessité, c'est-à-dire celle d'un choix entre, comment est-ce que je vais vous dire, entre Dieu et Mammon, par exemple. Et c'est un phénomène social qui sera parallèle à la croissance de la richesse. Eh bien, c'est le déplacement au XIIIe siècle de toute la population vers les villes. Alors, il y a quelque chose de nouveau au monde. Il y a des bourgeois qui maintenant ont un certain prestige, ont une certaine puissance. Et c'est un changement radical puisque ils vont s'installer et fonder ce qu'on appelait les communes. Alors ça, c'est François qui va justement vivre jusqu'à 25 ans dans cette espèce d'ivresse. Il va vivre, par exemple, toute l'époque des barricades. On a l'impression d'être un peu en mai 68. C'est-à-dire il va participer, par exemple, à l'attaque du château fort d'Assise, à La Rocca. Et il a une nature qui est... C'est quelqu'un qui se sent très libre, comme ça. Il a envie d'enlever tout complexe. Il veut liquider ce côté un peu servile qui existe à l'époque. Et il a quelque chose de moderne parce qu'en fait, Saint François, en fait, je trouve qu'il est démocratique avant tout. Alors ça paraît curieux d'imaginer que la courtoisie, la chevalerie, les pèlerinages, tout ce qui marquait l'époque, eh bien, lui va le transformer aussi avec cette mentalité de missionnaire, cette mentalité de quelqu'un qui bouge, qui voyage, c'est un itinérant. Alors il commence d'abord par un sermon. Par exemple, quand on le voit en train de prêcher, eh bien, c'est quand même curieux qu'un homme comme celui-ci, eh bien, il va tout à coup chanter. Vous imaginez quelqu'un qui fait un chant d'amour courtois, comme on les faisait au Moyen-Âge. Alors, il va servir surtout cette pauvreté. Alors, il l'a appelée carrément Dame Pauvreté. Donc, il va lui donner des lettres de noblesse, tout simplement en s'habillant comme Saint François, comme on a l'habitude de le voir, c'est-à-dire en guenilles. Et il va s'entourer de 12 premiers frères. Et il se compare un peu au roi Arthur. Vous vous rappelez des légendes du roi Arthur, des chevaliers de la table ronde? Eh bien, ça, c'est l'idée de base de Saint François. Et on cite, par exemple, quand on parle de lui, qu'il évoquait toujours Charlemagne, il évoquait le côté un peu paladin, comme ça. Et il va immédiatement remettre cette profession, sa profession de foi, entre les mains du pape. Et il envisage, par exemple, quand il pense au pape, eh bien, il le voit comme un grand chevalier. Il imagine qu'il serait peut-être même adoubé par le pape. Et il conçoit chacune de ces fraternités à la fois comme une sorte de cours d'amour, et il estime qu'il faut enseigner et pratiquer cette espèce de raffinement qu'il avait mis en place, c'est-à-dire celui de la charité. Et il crée une sorte de table ronde avec des chevaliers qui organisent des conquêtes. Par exemple, il imagine la conquête du royaume à l'honneur de Messire Dieu. Vous voyez que ça n'est pas un langage courant quand on parle de religion, non? Dans l'Église, eh bien, les laïcs, petit à petit, vont commencer à participer aux activités. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Il y aura même des responsabilités qui vont leur être données. Et leur rôle s'intensifie, par exemple, au XIIIe siècle. On commence à écrire, on les voit dans l'art. Et petit à petit, ils s'associent à tout. Et il y a surtout cette charité qui est assez nouvelle. Et François apparaît à ce moment-là, dans cette espèce de tournant un peu délicat. Et son ordre, eh bien, ce sera un ordre de laïcs. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Il va essayer de protéger en fait tout ce qui existe comme idée à l'époque. Il fera très attention, par exemple, aux Vaudois, là je pense bien sûr aux sectes, aux Albigeois ou alors aux frères du Libre-Esprit. Ça, c'est le seul danger qu'il voit de l'extérieur. Alors dans cette espèce de monde qui est encore médiéval, eh bien d'un côté il y a beaucoup de désordre, il y a ce côté violent, il y a le lucre, et puis de l'autre il y a cette générosité qui est complètement folle, cette espèce d'attente, cette envie de donner comme ça, cet élan pour avoir un amour authentique. Alors on se demande comment est-ce qu'un homme comme celui-ci a pu s'intégrer et assimiler toutes les tendances de ce XIIIe siècle, et par quel chemin il va être conduit à se faire un jour l'apôtre de la paix et de l'amour. Vous voyez que c'est un langage qui nous paraît extrêmement jeune, nouveau. On a même l'impression qu'on vient de le répéter au XXe siècle. Si je parle de Saint François, bien François, dans son enfance, il a été très heureux parce qu'il avait un cadre de vie absolument extraordinaire, et il vivait dans une ville fantastique. Vous connaissez peut-être Assise, mais c'est peut-être une des plus belles villes d'Ombrie. Et puis, il avait un certain équilibre. Alors, je crois qu'il le doit d'abord au tempérament de son père, Pierre Bernardone, qui était un gros négociant en tissu. Et puis, il a une mère qui est assez douce, comme ça, qui est très délicate. Elle s'appelle Pica, Dame Pica. Elle est française, et il a sous les yeux un exemple de générosité. Lui, il appelait ça, il disait que sa mère était courtoise. Et c'est assez vrai, c'est ce qui va lui donner certaines envies, même s'il a eu une jeunesse un peu folle. Alors, quand on voit par exemple l'endroit où se trouve Assise, eh bien, essayez d'imaginer la ligne qui va de Paris à Rome. Et vous verrez que c'est exactement sur cette voie française, la Via Francesca, elle passe exactement au pied d'Assise. Et là, à l'époque, eh bien, il y avait des croisés, il y avait des pèlerins, il y avait des troubadours, et tous ces gens qui étaient des hérétiques et qui voulaient aller jusqu'à Rome ou qui essayaient de convertir les gens. Et puis, il y avait cette jeunesse aussi qui était à Assise, qui toute entière était vouée à ce qui était nouveau. C'est-à-dire qu'on sent ce côté mode, ces changements, et François, ben, lui, il gaspillait son argent, il achetait des vêtements incroyables, il adorait, on le voit souvent dans les banquets, il aimait bien les arroser aussi, et puis on le retrouvait la nuit à rôder dans les rues de la cité. Ça, c'est le Saint-François qui attend cette date que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ses 25 ans. Alors, en même temps, on sent chez lui une certaine fierté, une certaine noblesse. En 1200, lorsqu'Assise, par exemple, qui est une ville d'empire, va décider de secouer le joug de ses occupants, eh bien, il va participer avec les bourgeois et tout le peuple à cet assaut de la Rocca. C'est vrai que dans ce château, il y avait toute la garnison impériale. Eh bien, là, il va l'attaquer avec tout le monde. Donc, il a un petit côté... révolutionnaire comme ça dans sa façon de se comporter. Et en 1202, lorsque par exemple on va sonner la mobilisation d'Assise contre la ville de Pérouse, il s'engage véritablement pour défendre sa propre commune. Et il va réaliser peut-être son plus grand rêve. Il espère en tout cas qu'on va l'adouber sur le champ de bataille. Ce serait vraiment sa volonté la plus chère. Alors lorsqu'on perd cette bataille, je pense à celle du pont Saint-Esprit sur le Tibre, eh bien il est fait prisonnier. Et là, au contraire, il va accroupir dans les prisons, dans les cachots de Pérouse. Alors, on imagine la scène. Hein. Vous avez vécu l'échec, c'est votre première cassure, vous êtes malade et vous commencez à réfléchir. C'est ce qui se passe dans la tête de Saint-François. C'est son premier pas vers ce qu'on peut appeler véritablement sa conversion. Alors, c'est d'abord dans la personne des pauvres qu'il va rencontrer la solution. Il est par exemple, je te donne un exemple. Un jour, il était affairé dans la boutique de son père, et puis il y a un mendiant qui rentre et vraiment il l'envoie balader, il le fait sortir de la boutique et immédiatement il réagit et il fonce dans la rue, il le rejoint et lui présente ses excuses. Ça, c'est peut-être la première image importante pour comprendre le déclic de François. Et par exemple, un jour sur le parvis de Saint-Pierre de Rome, eh bien, on le voit arriver, il enlève ses vêtements, et oui, il les troque contre ceux d'un mendiant qui était là, et il veut faire l'expérience. Il aimerait lui-même être un mendiant, et c'est son apprentissage, en fait, de la pauvreté qui commence. Il s'engage ensuite avec Gauthier de Brienne pour aller en Pouille défendre les territoires du pape. Et à Spolète, eh bien, il rencontre un chevalier qui est très pauvre, auquel il abandonne tout son équipement somptueux. Ça, c'est un autre aspect de François. Et un jour, lorsqu'il chevauchait dans la campagne, il rencontre un de ces lépreux, vous savez, ces gens absolument malheureux, et qui étaient condamnés à fuir, et il devait rester en général en dehors des villes. Eh bien, lui, il va réprimer cette horreur. Il prend le lépreux dans ses bras, il lui donne un baiser, et puis il va passer quelques semaines dans les hôpitaux, dans les maladeries des environs d'Assise. François se forme, il est bientôt sur le chemin de la sainteté. On l'appelle dorénavant le poverello. François, eh bien, progressivement, il va avoir cette intelligence du pauvre. Ça paraît curieux, mais être pauvre, ça n'était pas évident pour lui. Il avait été riche, il avait vécu comme un riche. C'est ainsi que ses compatriotes, maintenant, vont le nommer poverello. Et dans la petite église de Saint-Damien, il est devant un crucifix et là, eh bien, il se rend compte que le crucifix lui parle. Et le crucifix lui dit: François, tu vas rebâtir ma maison. Cette maison qui tombe en ruine, c'est à toi de la reconstruire. Alors il prend cet ordre véritablement à la lettre et il se transforme d'une seconde à l'autre en maçon. Vous imaginez? Vous voulez tout à coup prendre des pierres, du mortier, et il va réparer progressivement trois chapelles et il attend de réaliser un jour son vrai programme. C'est-à-dire une sorte de restauration. Dans sa tête, c'est ça. Il veut restaurer la chrétienté qu'il trouve branlante, qu'il trouve complètement démolie. Ça, c'est son rêve. Il a suffi qu'il voit un crucifix, qu'il sente ce message, et il devient constructeur. Là, il y a une scène qui est assez extraordinaire. Essayez de penser aujourd'hui, dans notre monde, avec notre économie, que vous voulez dire adieu. Adieu au monde dans lequel vous avez toujours vécu. Alors, c'est son premier biographe qui nous rappelle l'histoire. Alors, imaginez que Pierre Bernardone, vous vous rappelez, c'est le père, bien sûr, il va en fait traduire son propre fils devant l'évêque de la ville et il va lui demander de tout faire pour que François renonce à ses droits, c'est-à-dire à ses droits d'héritage. Alors ça, c'est quelque chose d'incroyable parce qu'on le voit se présenter devant ce tribunal épiscopal et là, sans aucune hésitation, sans attendre un ordre, ni demander aucune explication, il enlève directement tous ses vêtements et il les rend à son père. Il est nu comme un ver, il a tout redonné à son père et il y a une sorte d'ivresse comme ça. On a l'impression qu'il est pris par un esprit et il proclame devant toute l'assistance que jusqu'ici, il avait appelé cet homme son père. Et qu'il était son père sur la terre, mais que dorénavant, eh bien, il n'y en avait qu'un pour lui, c'est celui qui était aux cieux. Ça, ce sont les paroles de saint François, et l'évêque lui fait donner, bien sûr, le manteau de bure. Il y a un fermier qui était là, et on l'habille simplement avec le vêtement du fermier. Et François va le recevoir avec beaucoup de reconnaissance. Il part ensuite ramasser au bord du chemin un morceau de gypse et sur cette bure, lui-même, comme avec une grande craie, eh bien, il trace carrément une croix. Là, vous commencez à voir le côté plus profond du personnage parce qu'il a choisi ses armoiries. Ses armoiries, c'est la croix. Il a choisi une devise, il va définir sa mission. Là, nous sommes en 1207, on est en plein hiver, et François va être arrêté en pleine forêt par des brigands, et il leur décline son identité, il leur donne son titre qui montre bien son idéal. Il dit simplement, moi, je suis le héros du grand roi. Vous voyez qu'on est encore en pleine chevalerie, je n'ai pratiquement jamais prononcé le nom de Dieu, et finalement, cet homme se soumet comme un chevalier à quelque chose de plus puissant que lui. Et il y a 2 ans qui vont se passer. Ce sont des moments de pénitence. Il va vivre dans les... On appelle ça les maladries, vous savez, les hôpitaux de l'époque. Et finalement, on le retrouve le long des routes. Il s'occupe de construction. Il vit uniquement de mendicité. Il médite. Et chez lui, ça a joué un très, très grand rôle. Il y a une sorte de romantisme quand on voit le début de l'histoire de François. Romantisme parce que c'est d'abord cette générosité qui nous trouble. Il a décidé un beau matin de passer aux actes. Là, en plein mois de février, il y a une nouvelle illumination comme ça. On est le jour de la Saint-Mathias, on est très précis. Il assiste à une messe et le prêtre lit. Il lit bien sûr l'évangile et il dit simplement « Allez et annoncez partout que le royaume de Dieu est proche ». Et finalement, c'est exactement ce qu'il va comprendre parce que juste derrière, il dit « Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. N'emportez avec vous ni or ni argent. N'emportez ni or ni argent, c'est exactement ce que voulait faire François. Il sursaute, il a véritablement découvert ce qu'il cherchait. Il va s'exécuter aussitôt, il jette son bâton, il quitte ses chaussures, il dépose son manteau et il remplace par une corde sa belle ceinture de cuir qu'il avait gardée. Et puis il part, il est décidé tout simplement à prêcher la pénitence et l'amour. Et il a quelques camarades qui ont son âge, des jeunes comme lui, qui vont le rejoindre. Il pose alors la question d'un règlement finalement. Il lui faut maintenant un style de vie et ils vont tirer, et ça c'est extraordinaire, voyez la scène, tirer un horoscope de cette fraternité. Ils rentrent dans l'église de Saint-Nicolas et là, à 3 reprises, ils ouvrent tout à fait au hasard l'évangéliaire. Alors vous voyez la scène. La première fois, il tombe sur ces mots. Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as et donne-en le prix à tous les pauvres. Et puis, ils ouvrent encore une fois le livre une deuxième fois et en voyage, n'emporte rien. La troisième fois, que celui qui veut venir avec moi prenne sa croix et me suive. Et ça, c'est véritablement comme cela que ça s'est passé. D'un seul coup, eh bien, vous avez la première règle de François, la première règle de l'ordre, et ses compagnons vont partir à Rome, et avec ces 3 phrases, ils vont demander d'approuver la règle par Innocent III, qui était le pape. Et un jour, eh bien, il avait lu ailleurs dans l'Évangile une histoire de mineur, et il avait compris que par l'Évangile, il fallait être plus petit que les autres. Alors il se dit, il faut que nous soyons mineurs. Et c'est comme ça que le mot mineur va lui donner le nom qui convient. L'ordre des frères mineurs était maintenant baptisé. Et jusque-là, le bon peuple les avait appelés les pénitents d'Assise. C'était le seul nom qu'on avait donné à cet ordre. Alors l'ordre des frères mineurs, eh bien, il fait partie de ce qu'on appelle maintenant les ordres mendiants. Vous savez que dans les ordres mendiants, il y a les dominicains, il y a les carmes, il y a les ermites de Saint-Augustin. Mais voilà l'idéal de François d'Assise qui a quelque chose de nouveau par rapport à cela. C'est-à-dire que la mendicité, d'accord, mais il fallait travailler aussi. Ça, c'était son idée. Pas seulement mendier.
il fallait aussi que l'aumône ne soit légitime qu'à défaut de travail, c'est-à-dire à défaut de subsistance qui était acquise en échange de travail. Alors seulement on peut mendier pour soi et pour ses frères. Encore, il était totalement interdit de recevoir un salaire en espèces. Ça, c'est une idée tout à fait importante. Et seule l'aumône en nature était primitivement permise par François. Alors les frères, eh bien, ils vont ainsi manifester leur refus d'entrer dans cette classe, dans cette économie naissante que j'évoquais tout à l'heure. En fait, ils sortaient du monde des bourgeois, ils sortaient du monde des possédants simplement par cette idée. Alors, il y a un texte qui est destiné par François aux frères qui dit qu'il faut travailler pour obtenir en échange des aumônes en nature, que l'aumône est l'héritage et le droit des pauvres et que les frères n'aient donc pas de honte, qu'ils se rappellent plutôt que vivant ainsi, ils seraient naturellement pauvres et sans abri, mais que le Fils de Dieu avait vécu, lui, d'aumône, tout simplement, comme ses disciples. Et si on leur refuse l'aumône, eh bien, au contraire, il fallait être extrêmement heureux, il fallait se réjouir de se trouver en compagnie de gens de basse condition, d'être méprisés et que finalement les pauvres, les infirmes, les malades, les lépreux, les mendiants des rues étaient des gens heureux. Ça, c'est une idée aussi qui va faire son chemin, en tout cas au départ de l'ordre de François. Et d'après les premiers qui ont écrit sur lui, eh bien, on dit que c'est au moment de Noël, en 1223, il va célébrer ce qu'on a appelé le mystère. Et il a eu un projet, on peut l'appeler révolutionnaire une fois de plus. Il a demandé au souverain pontife d'obtenir la permission de faire ce qu'il faisait. Et puis il va faire un service assez curieux. Alors, imaginez la scène, il fait préparer une mangeoire dans une grotte de Greccio, il fait apporter du foin, je vous rappelle, on est à Noël, hein. On va amener un bœuf, on va amener un âne, on va convoquer les frères, la foule de tous les voisins qui vont petit à petit accourir, et puis on entend des chants partout dans la forêt, c'est une nuit où vraiment on cherche quelque chose d'un peu solennel. Il y a des torches, il y a le son des cantiques, et là vous voyez François qui est debout près de la crèche, il pleure, il ruisselle véritablement de larmes, il déborde de joie et la messe a été célébrée sur la mangeoire, comme si c'était un autel. Et François qui était simplement diacre, il n'était pas prêtre, il n'a jamais voulu être prêtre, eh bien il chante simplement le Saint-Évangile, puis il prêche au peuple qui est rassemblé la naissance du roi, le roi le plus pauvre qui ait jamais existé sur la terre. Et lorsqu'il disait « enfant de Bethléem », on avait l'impression qu'il se passait la langue sur les lèvres comme pour sentir la douceur de la chose. On a une description de cette scène et du visage de François qui est assez étonnante. Et on va noter cette espèce de soumission immédiate qu'il aura à l'Église parce qu'il va demander la permission justement de réaliser cette paraliturgie, parce que ce n'est pas un véritable culte, parce qu'il connaissait très très bien Innocent III et qu'il savait bien qu'au début de ces années 1200, eh bien, il était interdit de faire certains jeux liturgiques. C'était interdit parce que ensuite il va très bien comprendre que c'est par humilité qu'il faut refuser le sacerdoce, c'est ce qu'il a fait, et c'est peut-être aussi pour imiter un autre fondateur, Saint Benoît, qu'il était resté comme cela diacre. Alors, c'est ainsi que cette règle va chercher, difficilement en tout cas, un code complet de vie religieuse. Et d'abord, il est question de choses assez différentes. Enfin, d'abord, on n'a pas de monastère. Ça, je crois que c'est la première chose qui intervient par rapport à tout ce qui s'était fait avant. Il n'y a pas d'horaire non plus. Il n'y a pas de méthode de formation pour ceux qui voulaient postuler et le suivre. Et cette règle, eh bien, par rapport aux autres, il y avait bien sûr un vœu de religion, le vœu, par exemple, de faire l'office quotidien. Mais ce qui la distingue, c'est cette obligation de pauvreté qu'on devait absolument pratiquer en commun, aussi bien qu'en particulier. Et ça, c'est l'idée de la fraternité. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Alors, la prédication, c'est comme un travail privilégié, même si elle est menée avec d'autres emplois qui pourraient être des emplois profanes. C'est aussi la première fois qu'on voit des gens qui passent du milieu religieux au milieu laïque sans aucune transition. Et l'idée, par exemple, de partir en mission dans des pays infidèles, c'était quelque chose de nouveau. Et c'est une sorte de croisade qui était nouvelle, parce que jusque-là, on l'avait fait uniquement avec des armées. Et sa soumission à Rome est aussi quelque chose de curieux, parce qu'on demande vraiment protection question. On demande d'être corrigé aussi. C'est-à-dire que chaque fois que François se réfère au pape, c'est pour être sûr de bien être dans le giron et de ne pas faire d'erreur. Alors, ce qu'il avait comme crainte, c'était sûrement le fait de tomber dans l'hérésie. C'était vraiment l'époque des grandes hérésies. Et François, eh bien, il va essayer de faire de ses frères missionnaires itinérants des gens tout à fait différents. Il abandonne, par exemple, vous savez que l'office dans les ordres monastiques, c'était quelque chose de très très long. Enfin, les messes duraient très très longtemps. Eh bien, lui, non. Au contraire, il va prendre le petit bréviaire de la chapelle papale. Et pour lui, ce sera bien suffisant. Il l'adopte. Et c'est ainsi qu'on va faire l'office. Il va l'appeler de l'Église romaine, mais en fait c'est une invention, c'est simplement une nouvelle formule pour que ce soit court, concis et que ça reste en même temps dans le milieu laïque. Alors l'originalité de la règle, elle va faire sensation. Essayez d'imaginer des cardinaux qui tout à coup vont être soumis à l'idée de cette approbation d'un ordre et d'une règle aussi étrange. Alors il y aura naturellement de gros problèmes parce que on les considère éventuellement comme une secte hérétique et on va hésiter. Là je prends par exemple le cas, il y a le cardinal Saint-Paul qui va faire remarquer que cette règle ne faisait que reproduire l'évangile. Ça c'est la base, c'est peut-être la plus grande assurance qui va être donnée à François parce que le cardinal eh bien, va dire que si on rejette cette règle, eh bien, c'est que l'évangile lui-même n'est pas viable, qu'il est impraticable et que ce serait un blasphème. Donc, involontairement, il a trouvé là un défenseur et le pape Innocent III va approuver oralement, attention, tout à fait provisoirement cette règle. Et la nuit précédente, le pape lui-même avait vu en songe un mendiant tout chétif. Et il l'avait vu porter sur ses épaules le Latran. Vous vous rappelez, vous connaissez l'église du Latran. Et il avait vu cette église toute lézardée, carrément presque démolie, prête à s'écrouler en tout cas. Et cette image d'un mendiant qui portait carrément l'église romaine sur son dos, ça c'était un présage. C'est un peu comme si François arrivait à temps. Alors on va définir le texte, on va l'approuver, il y aura une bulle papale, pontificale. Ça tombe en 1223, le 29 novembre pour être très précis. Et c'est ainsi que va débuter dans un élan, c'est le même élan qu'on sent avec les... Vous vous rappelez, ils étaient 12. On a l'impression de retrouver les premiers apôtres. On a l'impression de retomber dans quelque chose de primitif. C'est le christianisme de la première époque. Et puis, cette impression aussi d'une vie communautaire qui est construite uniquement sur l'idée de l'évangile. Je parle de religion, mais c'est quelque chose de tellement neuf, de tellement incroyable. Ils veulent témoigner sur terre que le royaume est déjà parmi nous et que le ciel, eh bien, il s'élabore ici, là, chaque jour, avec votre travail, avec votre tâche. Avec cette mendicité. Et comme le Christ et ses disciples, eh bien François envoie ses frères en mission. Il les envoie deux par deux et il leur demande d'établir la paix partout où ils passent. Il y a des villes entières qui vont fonctionner comme ça. Je pense à Arezzo, je pense à Bologne. Dans sa propre ville même, eh bien, il réconcilie les riches avec le peuple, l'évêque par exemple avec le podestat, c'est-à-dire les deux pouvoirs de l'époque. Et il s'embarque pour l'Égypte, il assiste au désastre de Damiette et il obtient d'être admis en présence du sultan qu'il voulait convertir autrement que par croix, tu dois croire, ou alors meurs. Non, Saint François, c'est tout à fait différent. Il discute. Rappelez-vous de la conversion du loup de Gubbio. C'est peut-être une légende, mais c'est peut-être l'action la plus apaisante qui soit. Paix, paix sur la terre, c'est une idée franciscaine. Elle est femme, me direz-vous. Eh bien, cet idéal, ça n'est pas facile de parler de cette fraternité évangélique, mais il y aura un enthousiasme, une sorte d'émulation comme ça chez les femmes, justement, tout comme chez les hommes. Et c'est une fille d'Assise, Claire di Favarone, qui est la première à voulu suivre, a voulu imiter François. Elle va être la fondatrice, elle va être le modèle des pauvres dames. On les connaît plutôt sous la désignation de Clarisse, bien sûr. C'est le nom de celle qu'on a appelée, j'aime bien, la fille aînée de François. Ah, il y avait une relation très étrange entre François et Claire. Et bien sûr, quand on parle d'amour avec un grand A, et il y a des dialogues, il y a des formules spéciales. Mais depuis que ce dernier avait renoncé à tout, vous vous rappelez de l'histoire de l'évêque Guy à Assise, là, quand il avait renoncé à tout le 16 avril 1207, lors de cette séance qui avait été, c'est quelque chose de retentissant, personne n'avait osé faire quelque chose comme cela. Et, bon, en ville, on ne parlait que de François. En 1210, eh bien, il prêche le carême, il est là dans l'église Saint-Georges. Et il y a Claire qui l'entend. Elle se place immédiatement sous sa direction. Et le dimanche des Rameaux, en 1212, après avoir reçu l'autorisation de l'évêque, elle se rend à la Portioncule et elle va demander d'être vêtue différemment. Elle va prendre ce qu'on appelle la profession. Claire avait 18 ans. Et à 18 ans, elle avait choisi comme une femme mûre. Et 16 jours plus tard, sa sœur Inès vient la rejoindre à l'abbaye bénédictine. On est à San Angelo. Elles vont y vivre 4 mois. Et puis, François va les installer ensuite à Saint-Damien. C'est la première fraternité féminine qui va être fondée. Et alors François, il va lui-même rédiger les règles, et puis il va demander de nouveau à Innocent III d'approuver et d'accorder le privilège de la pauvreté. C'est quand même quelque chose d'un peu fou, et il y aura des dispositions canoniques, elles sont toutes inconnues, je veux dire par là que personne n'avait imaginé cela auparavant, et les sœurs, eh bien, elles vont tout abandonner. Je parle des biens, naturellement, et elles vont vivre uniquement de travail, et d'aumône. Un peu comme on le voyait tout à l'heure, elles sont fidèles à la spiritualité de Saint François. Et Claire, elle a une grande dévotion, comme lui, pour cet homme qui est crucifié. Et elle récite l'office de la Passion que François avait composé. Et elle fait aussi cette fameuse prière, vous savez, la prière aux cinq plaies. Alors, quand on parle de Saint François, on y pense, bien sûr. C'est lui qui l'avait composé et qui lui avait appris cette prière. Et sa dévotion, eh bien, elle l'aura plutôt pour... comment l'appeler ? C'est l'Eucharistie, finalement. Cette Eucharistie qui se manifeste, entre autres, par des travaux, par la confection chez elle. Les Clarisses, eh bien, elles faisaient des linges d'autel et d'ornement pour les églises les plus pauvres. Et il y a une consécration fantastique qu'elles vont obtenir d'une façon tout à fait éclatante un vendredi de septembre 1240. Alors, vous imaginez la scène. Vous avez le monastère qui est complètement assiégé par les musulmans. Les sarrasins sont là et elle convoque, je parle de Claire bien sûr, ses sœurs. Elle leur dit de se placer devant le tabernacle. On dit même, il y a une légende qui dit qu'elle a même saisi l'ostensoir, c'est-à-dire l'endroit où se trouvait l'hostie consacrée. Et uniquement avec cela, elle arrivera à mettre en fuite tous les infidèles. Et dans la nuit de Noël 1252, elle était malade, elle était restée seule à l'infirmerie, elle ne quittait plus d'ailleurs cette infirmerie, et elle vient là pour entendre les frères. Et c'est quelque chose de curieux, parce qu'elle est là dans un hôpital, elle est à peu près à 2 kilomètres à vol d'oiseau de l'endroit où chantent les frères de François. Et il chante une sorte d'office comme ça dans la basilique qui est à plus de 2 kilomètres de l'infirmerie. Et on dit qu'elle a entendu ces voix, qu'elle a été complètement prise par le chant et qu'elle a vécu véritablement cet office. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est pour ça que Pie XII, en 1958, a fait de Clarisse la patronne de la télévision. Vous imaginez la scène à 2 kilomètres, c'est vrai que c'est assez incroyable. Alors, cette vie de Claire, elle sera écrite, bien sûr, mais lorsqu'elle va mourir au mois d'août 1253, eh bien, il y aura déjà de nombreux monastères en Europe. Le plus célèbre, c'est peut-être celui qui a été fondé à Prague, et il avait été fondé à l'exemple de celui de Saint-Damien. En France, très très tôt, dès le début du XIIIe siècle, il y aura des fondations dans toutes les grandes villes. Vous en avez à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, à Béziers, à Carcassonne. Il y en a même à Metz, à Verdun. Enfin, je pourrais continuer comme ça la liste. Et il y en a deux même qui méritent une mention spéciale, parce que l'ordre des Pauvres Dames n'avait encore que 300 ans d'existence. Donc en 1215, vous êtes à Reims. Reims, superbe cathédrale, l'archevêque, c'est Albéric de Humbert. Et il va rencontrer saint François au concile de Latran, et il lui demande quelques-unes de ses moniales, en fait, ces femmes qui vivent à Saint-Damien, pour sa ville, pour son épiscopat. Et Claire désigne pour cette fondation une femme qui est française, qui s'appelle Marie de Bray. Et elle arrive à Reims en 1220. Et lorsque Isabelle de France, la fille de Louis VIII et de Blanche de Castille, décide elle-même de se consacrer à Dieu, et elle va faire construire un monastère à Longchamp. On choisit quatre Clarisses de Reims pour former l'embryon de la nouvelle communauté. Là, on est en 1260-61. Et la famille royale est là, elle préside à leur installation. Et Saint-Louis leur adresse une exhortation qui va vraiment faire pleurer tous les assistants. Là, vous voyez que même les rois, même les évêques, même les grands du monde se plient petit à petit à cette idée des frères de la pauvreté ou à ces pauvres dames. Et actuellement, il existe en France quelque chose comme 50 monastères de Clarisse. Et dans le monde, il y en a plus de 780. Et il y en a 250 en Espagne, il y en a 180 en Italie, il y en a une bonne centaine en Amérique latine, je crois qu'il y en a une bonne quarantaine aussi au Benelux, une vingtaine en Allemagne et en Autriche. Et ces religieuses aujourd'hui sont pratiquement 17 000 dans le monde, c'est un chiffre énorme. Et au XIIIe siècle, eh bien, on n'avait pas encore envisagé finalement de la manière de pratiquer. De suivre vraiment tous ces conseils évangéliques, et surtout sans devoir s'arracher au monde et se retirer dans un cloître. Vous me suivez? C'est-à-dire que personne n'avait inventé la possibilité de suivre l'idée de François sans être enfermé, sans être coincé dans un monastère. La vie parfaite, eh bien, elle avait toujours été synonyme de vie monastique. C'est-à-dire, avant, si vous vouliez faire don de votre vie, il fallait vous enfermer. Et François, qui avait déjà fondé son premier ordre, avait déjà fait éclater énormément d'idées. Enfin, tous les moules avaient un peu sauté. Il avait d'abord dispersé ses frères mineurs à travers le monde, et il avait sauvegardé aussi cette vie en sorte de fraternité qui était régulière, comme on le dit dans les ordres. Et il avait pris des initiatives qui étaient très audacieuses, mais il va en prendre encore une plus audacieuse lorsqu'il va instituer ce qu'on appelle le troisième ordre, enfin le tiers ordre. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'était une idée qui était nouvelle, puisque depuis plusieurs années, elle était déjà dans l'air. C'est-à-dire que il y avait une certaine promotion qui était faite à propos du laïcat. C'est-à-dire que l'idée d'être prêtre, diacre, non, tout à coup, on voulait simplement être monsieur et madame tout le monde. Et puis, en 1199, eh bien, il y avait une sorte de revirement d'opinion. Et pour la première fois, on avait canonisé un laïc qui était un simple marchand, un marchand drapier. Il s'appelait Saint-Homébon, il était né à Crémone. Et à partir de là, il y a eu un changement, parce que partout en Occident, on voyait surgir des mouvements de laïcs qui étaient en même temps des pénitents, qui étaient des convertis finalement. Et beaucoup étaient tombés dans l'hérésie. Là, je pense aux Vaudois qu'on évoquait tout à l'heure. Il y en a beaucoup qui ont arrêté de suivre les mouvements catholiques. C'est une époque un peu troublée. Mais on constate une fois de plus que François va s'insérer dans un courant. Il était tout à fait à la mode, mais il donne aux choses une couleur très étrange. Il s'adapte vraiment aux idées de son temps. Et François va donner à son tiers-ordre un schéma, une sorte de schéma directeur. Et il va écrire une longue lettre encyclique qui est adressée tout simplement à tous les fidèles. Alors, imaginez par exemple que vous soyez marié au XIIIe siècle, et que vous voulez vous consacrer à cette idée un peu curieuse de François, sans quitter votre statut social, sans quitter vos obligations familiales ou professionnelles. Et c'est pour eux que François va écrire cette règle. Il veut simplement que les gens aient une vie fraternelle. Il leur demande simplement de ne pas chercher forcément l'assignation d'un local commun. Il ne veut pas qu'ils soient concentrés sur un territoire donné. Là, vous savez que les béguinages vont exister, mais c'est beaucoup plus tardif, comme on les verra surtout dans le Nord. Mais il veut par exemple, il refuse que les gens se macèrent. C'est-à-dire cette idée monacale qui faisait qu'on était sans arrêt obligé d'avoir des macérations un peu spectaculaires. Non, non, il disait qu'il suffisait d'avoir un costume et une table simple. Donc des vêtements les plus simples possibles, et puis manger de façon tout à fait correcte, mais extrêmement pauvre. Et il disait aussi qu'il fallait assister les pauvres, et qu'il fallait s'occuper des malades, qu'il fallait renoncer à tous les procès qui pouvaient exister devant les tribunaux, et qu'il fallait surtout interrompre toute dispute, toutes sortes de violences. Donc il y a vraiment une idée de paix assez étrange comme ça derrière cela. Et il insistait surtout sur la pratique des sacrements, bon ben ça c'est normal, mais il interdisait surtout de prêter serment et de porter des armes. Alors attention, là on parle d'un sujet tout à fait particulier, c'est-à-dire qu'il fallait refuser le service militaire. C'est une innovation absolument capitale dans un siècle où toute la structure qui existait encore était une structure féodale et qu'elle reposait sur un engagement absolument inconditionnel, réciproque aussi, de servir et de défendre son seigneur. Féodal, suzerain, vassal, ça c'était une chose qui éclate complètement avec l'idée de François. Et c'est pourquoi le tiers-ordre, qui est appelé aussi l'ordre de la pénitence, va être en même temps un élément extrêmement actif, une sorte de renouveau de la vie chrétienne bien sûr, et un vaste mouvement, là c'est vraiment ce qui se dessine, c'est un mouvement en faveur de la paix et les mœurs, les fonctionnements d'énormément de villes italiennes vont être complètement changés. Il y a une influence déterminante parce que on connaît par exemple les époques où il y a eu des insurrections communales, où il y a eu de gros drames à l'intérieur de certaines bourgades. Et bien grâce à la non-violence de ces bourgeois qui étaient en fait affiliés au tiers-ordre, eh bien on va trouver des solutions extrêmement douces. Pour la première fois, on peut parler de solutions chrétiennes. C'est nouveau, on sort du Moyen-Âge. La pensée de saint François, ça n'est pas la Renaissance, mais c'est une immense Renaissance. Quand on parle du tiers-ordre, eh bien, il faut un premier couple. Ben oui, on a commencé par des hommes, on a vu les clarisses, les dames pauvres, et là, avec le tiers-ordre, on peut fonctionner en couple, c'est la première fois. Et un couple, eh bien, c'était des marchands, un couple de marchands toscans, lui s'appelait Lucchesio, elle s'appelait Bonadonna. C'est joli comme prénom. Ben, ils ont été touchés par ces prédications de François et ils vont devenir aussi généreux envers les pauvres qu'ils étaient autrefois attachés à leur argent, à leur richesse. Et avec quelques-uns de leurs compatriotes, ils vont former la première fraternité. Ils vont promettre d'observer la règle qui est composée maintenant par François. Là, vous êtes en 1221. La même année, elle va être soumise, cette règle, à Honorius III, et on a changé de pape, il va l'approuver. Et à la mort de François en 1226, eh bien, le mouvement des pénitents laïcs va se propager sans doute par les prédicateurs du premier ordre, qui maintenant, vous le voyez, toute l'Europe commence à être couverte par ces fraternités. Alors, il y a des personnages extraordinaires quand on parle de ce tiers ordre. Essayez d'imaginer l'impact que ça a sur l'époque. On a des mouvements philosophiques, on a des idées orientales, aujourd'hui on a peut-être d'autres formules qui viennent des États-Unis, mais là c'était vraiment une mode extraordinaire. Sainte Élisabeth de Hongrie. Ben voilà quelqu'un qui tout à coup va s'affilier au tiers-ordre. Elle fait transporter les malades pauvres dans son château, elle les soigne elle-même, elle va fonder plusieurs hôpitaux. On dit même que le roi Saint-Louis, vous connaissez le grand Saint-Louis de France, eh bien il est également tertiaire. Lui aussi, il va recevoir et il servait les pauvres à sa table chaque vendredi. Et oui, les temps changent. On pourrait citer des personnages extraordinaires qui ont illustré le tiers-ordre au cours des siècles. En Italie, Dante. Dante faisait partie du tiers-ordre. Et quand on pense à mon Amérique, à moi, eh bien Christophe Colomb faisait partie du tiers-ordre. Et Thomas More, tiens. Thomas More avec ce chancelier qui va lutter contre Henri VIII et qui va écrire cette fabuleuse utopie, il était du tiers-ordre. Vous avez Saint Ferdinand, le roi de Castille. Vous avez des avocats comme Saint-Yves de Tréguier, Saint-Pierre de Sienne, qui fabriquait tout simplement des peignes d'écailles. Au XVIIe siècle, vous aurez carrément les 44 martyrs franciscains qui sont morts au Japon. Et puis plus tard, vous aurez Léon Armel, c'est un industriel. Vous aurez tous les papes depuis Léon XIII. Sans compter ceux qui en sont sortis pour donner naissance à des fondations plus spécialisées, comme pensez par exemple à des hommes comme Saint Ignace de Loyola, qui va fonder les jésuites, Saint Vincent de Paul, Sainte Jeanne de Chantal, et plus près de nous, Jean Bosco, qu'on retrouve dans un tas d'écoles en Italie ou même en Suisse, Joseph Cafasso, Joseph Cotolengo, ça ce sont des gens qui faisaient partie du tiers-ordre. Alors, quand on parle de la gloire des franciscains et surtout de ceux du tiers-ordre, attention, des laïcs, je le rappelle, il y en a 150 qui ont été canonisés ou qui sont des bienheureux aujourd'hui. Donc c'est énorme, c'est un chiffre énorme pour des gens qui ne font pas partie intégrante ou intégrale de cette église. Alors, c'est plus important même que toutes les réalisations hospitalières. Je parlerai aussi des missions, le côté éducatif, le côté social. Ces fraternités tertiaires, ce sont vraiment des foyers comme ça, de paix. Ça ne me gêne pas de dire des foyers évangéliques finalement. François disait, je veux tous vous envoyer au paradis. C'est un peu son idée. Et dans cette fraternité du troisième ordre, eh bien, il a véritablement commencé cette réalisation. Tout le monde pouvait aller au paradis grâce à François. Alors à force de vouloir ressembler au Christ, celui de l'évangile de la première époque, celui qu'on relisait dans les mots, eh bien, François était devenu jusque dans sa chair identique à son modèle. Et c'est sur le mont Alverne, au mois de septembre 1224, donc juste 2 ans avant sa mort, que le prodige est arrivé. C'est quelque chose d'assez incroyable, parce que toute sa vie, il s'était présenté aux hommes comme un témoin, comme un témoin de Dieu. Et il disait que justement, Dieu lui-même pourrait se présenter en quelque sorte comme un témoin de François, parce que il a conclu cette vie qu'il avait lui-même élaborée comme un auteur qui, par exemple, appose son paraphe sur des pages qu'il aurait écrites ou qu'il aurait ressenties dans son inspiration. Et François va recevoir bel et bien les plaies. Vous savez, les plaies du crucifié. Il va les recevoir dans ses mains, dans ses pieds et sur son côté. Et c'est le mystère de la stigmatisation. C'est une matérialisation, oui, c'est une matière vraiment d'une réalité surnaturelle tellement forte que de l'esprit, elle est passée directement dans la chair. C'est quelque chose d'assez fou, parce qu'il y a des descriptions précises qui sont toutes concordantes. On parle de fêtes, on parle de témoins oculaires. Il y a eu un scepticisme, bien sûr, je pense à Montaigne, à Renan, mais finalement, il n'y a aucun fondement. L'Église a reconnu officiellement le miracle, et c'est pourtant le genre de prodige qu'elle reconnaissait avec beaucoup, beaucoup de crainte, de contrainte, parce que déjà en 1221, c'est-à-dire 3 ans auparavant, avant, il y avait un synode à Canterbury sous la présidence d'Étienne Langton et on avait condamné plusieurs imposteurs qui prétendaient avoir été déstigmatisés. Or, en automne 1224, François va décider d'accomplir à l'ermitage de l'Alverne le carême de la Saint-Michel. Et grâce à un frère qui est là, le frère Léon, eh bien, qui était là pour l'espionner, on connaît le texte des deux prières qu'il va répéter alors, mais jusqu'à s'endormir, jusqu'à se fatiguer véritablement. Et la première, c'était tout simplement « Seigneur, qui es-tu et qui suis-je ?» Ça, c'est la première question qu'il va poser des milliers de fois devant le crucifix. Et l'autre, c'est « Seigneur, donne-moi d'expérimenter dans mon corps et dans mon âme les souffrances de ta passion. Donne-moi de ressentir dans mon cœur l'amour dont tu brûles et qui t'a conduit à tant souffrir pour nous pécheurs. » Et subitement, il sent sa demande exaucée. Un crucifié avec des ailes. Imaginez, 6 ailes flamboyantes autour d'un ange comme cela. Il apparaît dans le ciel avec le crucifié lui-même. Et lorsque le séraphin a disparu, eh bien François constate ce miracle absolument extraordinaire. Ses mains et ses pieds étaient percés de clous. Son côté était ouvert, il saignait abondamment. Et selon l'expression qu'on peut reprendre de Claudel, eh bien, il n'était plus avec le Christ qu'une seule chose souffrante et rédemptrice. C'est assez curieux d'imaginer ce moment du miracle. Immédiatement après la stigmatisation, François va composer ce qu'on peut appeler son Magnificat. Il va l'écrire lui-même de sa propre main, cette main qui est transpercée. On a encore l'original de ce Magnificat au Sacro Convento d'Assise. C'est une sorte d'explosion, une explosion de joie, une sorte de prière à la louange de ce Seigneur, de ce Sauveur, et à la grâce exceptionnelle qu'il venait de recevoir, aucune autre allusion que la signature au verso, sa signature habituelle, la lettre Tau. Son vrai labarum, ce signe de rédemption, ce signe de la croisade, ce signe de la victoire. Et quelques jours plus tard, il va prendre congé de l'Alverne. Il ne va pas oublier, bien sûr, de dire adieu et merci à frère Faucon, qui chaque nuit l'avait éveillé uniquement pour aller au matines. Et de l'Alverne à Assise, le voyage sera à la fois un triomphe et une sorte de chemin de croix, parce que chaque village va lui faire un accueil absolument délirant. Et on voulait garder de lui une image, et il va multiplier. Là c'est le moment où il y a de véritables guérisons, et ça va le retenir pratiquement un mois. Il voyage à dos d'âne, il traverse les Apennins, il y a de la neige un peu partout, il perd le sang par toutes ses blessures. Il y a une sorte de visage, de voile douloureux qui s'étend. Il a les yeux qui sont brûlés. On a l'impression qu'il s'est grillé au soleil. Et il a ses larmes aussi, il pleure tout le temps. Et son organisme est miné par le jeûne et il s'affaiblit. Et malgré tout, jusqu'au bout, il va poursuivre cette vie de pèlerin, de prédicateur. Et c'est vraiment l'image qu'on peut retenir. Chaque étape, c'est le prétexte d'un sermon. Et il prêche, il commente, c'est un spectacle de voir son martyr, et puis c'est cette volonté d'arriver au bout comme ça à Saint-Damien, et Clarisse lui installe une hutte de branchage au fond du jardin, et la nuit il y a des petits mulots, enfin des petites souris qui viennent danser la sarabande autour de lui, et ce pauvre qui est maintenant aveugle, ce poverello, cet agonisant, va composer le chef-d'œuvre de la littérature lyrique de son temps, c'est le Cantique du Soleil. Pour lui, le monde n'est plus hostile, il est devenu fraternel, et il n'y a plus d'opacité comme ça, mais il y a quelque chose de lumineux, et François a retrouvé la paix, il sourit avec la création et avec lui-même, puisqu'il est en paix, il est en total accord avec ce qu'il a rencontré un jour, il est déjà au paradis. Down.